Alors, notre prochaine intervenante est Dominique Soulès, qui a une formation de lettres classiques, mais assume pleinement et avec joie, et il faut que vous entendiez le soulignement d'avec joie dans ma voix, avec joie ce pas de géant entre l'antiquité classique et l'extrême contemporain en littérature française. Vous voyez, c'est l'inverse de moi. Elle est auteure de quelques textes poétiques qui ont donné lieu à des installations dans le cadre de manifestations artistiques et à une publication dans un collectif. Elle fait actuellement une thèse sur les questions de langue, singulier et pluriel, il y a un S entre parenthèses, chez Antoine Volodine à l'université de Lille 3.
Merci Jean-Pierre. Alors malgré la lecture d'Antoine Volodine mardi soir et au risque de paraître banalissime, je tiens néanmoins à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité à Cerisy. Outre le titre que j'ai proposé et que je conserve, je mettrai volontiers en exergue de ma communication cette remarque de Bruno Blankmann qui évoquait à propos de Volodine, je cite, « une appropriation particulière de la langue ». C'est ce à quoi j'aimerais sensibiliser l'auditoire aujourd'hui. Je profite également de cette mention de Bruno Blankmann pour prévenir que quelques lignes de ma communication feront écho, on l'entendra, à la sienne. Une inspiration cousine, sûrement chamanique, a dû nous traverser l'un et l'autre au moment où, dans le secret, nous œuvrions pour le colloque. Qu'un écrivain travaille la langue et pour ce faire travaille avec elle, cela va sans dire. Ou presque, car parfois on peut le lire et pas seulement entre les lignes. Il arrive en effet que la langue, matière première de la création littéraire, en soit aussi le sujet et que, source d'intérêt spéculaire, elle serve également à s'interroger sur elle-même. Ainsi trouve-t-on des romans qui, portant la trace de cet intérêt particulier pour la langue, insèrent dans leur trame narrative des épisodes fictionnels centrés sur des situations ou des pratiques langagières. Volodine, à n'en pas douter, fait partie de ces écrivains. S'il a paru naturel, urgent et indispensable que l'on s'intéresse à la représentation de l'histoire, fût-elle oblique, dans un édifice romanesque qui contient les mots « quand »,« gaz » et « exsang », selon la même logique, on ne saurait rester impassible face aux occurrences multiples des termes, dictionnaires, nommés ou encore lexiques et langues. En effet, le post-exotisme d'Antoine Volodine contient une véritable réflexion sur la langue qui, pour le lecteur, s'élabore et s'étoffe au fil des heures et des œuvres. Que ce soit par le biais de mentions incidentes disséminées ici ou là, comme lorsqu'on apprend au détour d'une phrase qu'un Djeko est doué en langue, ou par le biais d'épisodes fictionnels plus consistants, comme dans Le port intérieur, cet édifice romanesque donne à lire des fictions véritablement habitées par la langue, une langue représentée et présentée dans tous ses états. Restreinte par la clepsydre pourtant généreuse ici, mon intervention ne sera évidemment pas exhaustive sur les pratiques langagières de l'auteur. Elle se limitera aux œuvres parues en volume, explicitement signées Antoine Volodine, et présentera quelques traits de cette œuvre faite d'une langue indéniablement facétieuse, assurément mystérieuse et remarquablement fictionnalisée. Ce sera l'objet du premier moment de mon intervention. Une œuvre de langue qui n'accorde pas au lecteur une tranquillité paisible, chahuté qu'il est en ses habituels réflexes linguistiques, ce qui fera l'objet du deuxième moment de mon intervention. Au lecteur qui parcourt son édifice romanesque, Volodine propose de s'interroger sur la langue, et plus précisément, la langue dans tous ses états. Cela inclut donc aussi les moments d'avant sa maîtrise, lorsque nous tentions encore de l'apprivoiser, c'est-à-dire à la fois de la faire nôtre et de nous conformer à ses règles de fonctionnement intangibles. Sur ces moments de l'apprentissage, cependant, on revient assez rarement, car une fois la langue maîtrisée, l'affaire est dans le sac et celui-ci, jeté sur notre épaule, nous colle à la peau, devient un vademécum aussi indispensable pour nous que par nous oublié, tant son utilisation est évidente. En effet, saisir la signification efface à la fois le son des mots et leurs éléments structuraux, les lettres particulières. Sur les moments d'apprentissage, on revient assez rarement, sauf s'il porte sur une langue maternelle qui, en outre, sauf s'il porte sur une langue non maternelle qui, en outre, ne répond pas exactement au même fonctionnement linguistique, ce qui est le cas, par exemple, des langues dont l'alphabet diffère d'une autre, voire n'y correspond pas du tout, on peut penser à des langues non alphabétiques. Dès lors, la différence et la nouveauté, mais surtout l'étrangeté de ces langues, est suffisamment intrigante pour pouvoir donner lieu à un questionnement complexe et donc à des épisodes narratifs fournis. Parmi les fictions wolodiniennes parues à ce jour, Le port intérieur est celle qui contient l'exemple linguistique du béaba, le plus riche. En effet, au combat que doit livrer Bruegel contre Kotter, s'ajoute celui qu'il mène pour conquérir la langue chinoise et parfois coréenne. De sa vieille voisine baptisée Madame Fong, Bruegel ne peut rien attendre, ni un regard, ni un bonjour, encore moins une petite aide linguistique. Dans une situation intermédiaire entre celle de Kotter, quasiment analphabète et hermétique aux langues asiatiques, et celle de Gloria, vraie polyglotte, il essaie donc, seul, de faire un peu le tri parmi les innombrables idéogrammes et les différentes tonalités du chinois. Mais la façon dont il demeure à Macao n'est pas sans incidence sur son rapport à la langue. Il n'est en effet ni un touriste de passage, ni un ethnologue en mission sur le terrain. Il ne se contente donc pas de quelques mots de politesse usuels lors d'un bref séjour à l'étranger, mais à l'inverse, il ne récolte pas tous les mots de la langue qu'il entend. Dans un entre-deux, il reste un étranger solitaire qui séjourne dans une culture qui n'est pas la sienne, mais qu'il apprécie et qu'il tente de mieux connaître. Pour ce qui est de la langue, il n'en est ni totalement ignorant, ni omniscient, mais malgré son désir... Malgré son réel désir de progrès linguistique, il est mis à rude épreuve. Voici ce qu'on peut lire dans une des pages du port intérieur. Ce n'est pourtant pas faute d'efforts, des heures perdues, des milliers. Les mots chinois sont là, à petite distance, très peu farouches. Mais dès qu'on en a capturé un, ils s'évadent. Il suffit de... Un clignement de la conscience, une demi-heure de torpeur, et déjà le fugitif a rejoint la rue bruyante, la masse où tous les caractères sont inconnus, à apprendre ou à réapprendre. Mais il en faut plus pour décourager Bruegel. Comme elle l'est pour Kotter, la langue est avant tout pour lui un ensemble de sonorités dépourvues de sens. Mais alors que le tueur les avait rejetées en bloc, Bruegel prend plaisir à cueillir, recueillir et accueillir, je cite, des jacasseries ou des vociférations à quoi il ne comprenait goutte, mais qu'à l'intention de Gloria, il répète. D'ailleurs, son ouïe est plus fine, car même s'il n'est sûr de rien, conscient de la nécessité de se faire l'oreille, parfois, à titre d'exercice, il répète à mi-voix quelques chiffres, peut-être des indices boursiers. Ces notations fictionnelles permettent un premier rappel au lecteur. Une disponibilité d'écoute et l'ouverture à des sonorités inhabituelles sont les conditions minimales requises face à une langue qui passe aussi par les oreilles. L'exilé, d'ailleurs, s'adonne volontiers à ces exercices linguistiques, puisque, je cite, « il venait de réciter dans l'ordre les 12 animaux fondamentaux du calendrier, ayant commencé par Lao Tzu, le rat, lorsque Kotter lui appliqua sur la tempe le canon de son pistolet. » Si l'acoustique joue un rôle essentiel dans une langue tonale comme le chinois, la phonétique est tout aussi importante. Aucun secours à attendre des méthodes pour autodidactes, car les unes estiment que le cantonais comporte 6 tons, les autres 7, d'autres encore 9. Alors, dans un taxi pour annoncer la direction, je cite, Bruegel avait placé au hasard les tons. Dernière épreuve, et non des moindres, l'écriture et la lecture. Elle suppose la mémorisation qui elle-même exige des exercices de répétition. Lorsque Bruegel se réveille en pleine nuit, c'est hanté par des problèmes de vocabulaire. Bassine, nuit, chien et chat l'obligent à 4h du matin à se plonger dans un dictionnaire. Et il se recouche, soulagé parce que, je cite, « il n'avait pas oublié le moindre trait, finalement ». À l'inverse, tout va mieux lorsque les mots sont au rendez-vous, comme le note Bruegel lui-même. Je cite, « la journée n'était pas si détestable pourtant. puisque je me rappelais comment on écrit « encre, mouche, poisson, tête ». Et en plein jour, la rue est un véritable abécédaire, puisqu'abondent les enseignes sur lesquelles l'amant de Gloria s'entraîne à lire avec plaisir. Je cite « l'écriture des ânes, les enseignes chantées partout au-dessus des têtes, dans un mélange sino-portugais dont il n'était pas lassé encore ». Les idéogrammes emportent son adhésion définitive et sont en quelque sorte élevés au statut d'œuvre d'art graphique, même s'il s'agit de ceux qui figurent sur un sachet plastique, comme on peut le lire. De nouveau, le tueur, c'est-à-dire qu'auteur, le tueur survolait des caractères de toute beauté, une écriture, paysage, une caresse pour l'œil. Étant donné le désamour de Cotter envers la langue chinoise, le point de vue esthétique exprimé dans cette phrase ne peut être que celui de Bruegel. Et Bruegel, comme d'autres avant lui, est sous le charme de ces signes qui brisent la linéarité qui prédomine dans l'écriture alphabétique. Eliane Formentelli note que, je cite, « le rêve, l'idéogramme, la poésie jouent de conserve, du même bord, dans les scénographies d'un désir qui résiste à l'autorité discursive du logos et de l'alphabet. » Et même si Bruegel tente de perfectionner son acuité acoustique, même s'il s'essaie régulièrement à la phonation chinoise dans la rue, face aux enseignes, ou chez lui, en face d'un sachet plastique, il reste sous l'emprise, je cite, « des signes à jamais au-delà de la parole, décalés d'elle, autonomes, liés à un espace susceptible d'étouffer la voix parasite et son colportage trouble, car leur présence hors de toute profération fait d'eux des signes comme inouïs. » Si le choix d'insérer le chinois dans la fiction relève en partie de raisons autobiographiques, il se révèle aussi particulièrement intéressant sur le plan linguistique. L'expression lexicalisée « c'est du chinois » en est la preuve et indique clairement l'autre extrême qu'il représente pour un occidental qui ne pratique pas cette langue. Bruegel, plongé dans Macao, aimerait bien ne pas faire figure de barbare aphasique. Et par le biais de ces tribulations langagières qui mettent en jeu les différents aspects d'une langue que sont l'oral, l'écrit, la vue et l'ouïe, l'auteur nous rappelle quelles ont été nos joies, nos difficultés et parfois nos déceptions quand il s'est agi pour nous aussi de ne plus être des infantes, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas, mais d'accéder au stade suivant, celui des pueri, prêts à tout pour enrichir progressivement leur modeste bagage langagier. Bruegel et en miroir inversé Cotter en font véritablement l'expérience. Et ce que livre le narrateur n'est pas un traité de linguistique rigoureusement ordonné, mais une évocation impressionniste de la langue, hors de toute visée didactique. Il s'agit pour lui de faire ressurgir chez le lecteur les restes d'une expérience vécue et de les partager. L'identification possible du lecteur à Bruegel ou à Cotter lui permet non seulement d'imaginer son rapport à la langue chinoise, mais aussi de se remémorer quelque aventure ou mésaventure linguistique personnelle lors d'un séjour à l'étranger, et lui permet enfin, abstraction faite des particularités liées à telle langue ou tel épisode de sa vie, d'aboutir à une réflexion plus générale sur les différentes facettes constitutives du rapport à la langue. Cette éventuelle anamnèse langagière possiblement instigé par la fiction, va pourtant au-delà d'un simple goût ou dégoût pour les signes et les sons. En effet, rencontrer une langue inconnue, c'est être en présence de deux langues. La langue étrangère et la sienne qui, par confrontation, est soudain devenue elle-même un peu singulière, voire étrange, unheimlich, dirait Freud. Il faudrait pour commencer apprendre l'alphabet et ensuite apprendre la langue. Rien ne prouve qu'elle se révélerait alors compréhensible. Derrière le langage, en tout cas, il y a les mots, et derrière les mots, parfois, il y a un code. Parfois, il y a une culture, parfois, il y a un hurlement, parfois, il n'y a rien. Cet extrait de Lisbonne dernière marge, dont on pourrait faire un commentaire des épisodes fictionnels du port intérieur, rappelle une fois encore et ailleurs l'intérêt que l'auteur porte à la langue, intérêt qu'il essaie de susciter ou de ressusciter chez le lecteur par le biais de fictions qui ne négligent pas le béaba. Mais s'il s'intéresse à la langue et aux situations intradiégétiques qui la fictionnalisent, le lecteur espérera trouver dans l'un ou l'autre roman une suite à cette première remémoration linguistique. En effet, fort d'un alphabet maîtrisé et face aux mots, il peut logiquement être en proie à une interrogation qui porte sur la nomination et de façon connexe la définition et la signification. Malgré la chronologie bouleversée des œuvres volodiniennes, le lecteur peut néanmoins tirer des leçons qui se complètent l'une l'autre, mais il a à les reconstruire et à les ordonner lui-même. Je ne m'attarderai pas sur la fictionnalisation du rapport des mots aux réalités qu'ils recouvrent. Je dirais juste que sur ce point-là, il n'y a pas d'épisode fictionnel particulier, mais qu'il est récurrent dans l'édifice post-exotique sous forme de mentions incidentes placées, comme par inadvertance, à l'intérieur d'une séquence narrative sans rapport avec la langue. Le retour de ces interrogations sur le sens, sens adéquat, problématique, falsifié ou inexistant, exige qu'on fasse de ces phrases de détail, pourrait-on dire, des exhortations à s'y intéresser plus précisément et en détail, justement. Je ne le ferai pas aujourd'hui, mais j'indiquerai juste que régulièrement sont interrogés le sens des mots, l'insuffisance lexicale de la langue, les désignations par défaut et l'euphémisme, lui véritablement dénoncé, lorsqu'il s'apparente à un mensonge. On touchait déjà à une époque de l'histoire humaine où non seulement l'espèce s'éteignait, mais où même la signification des mots était en passe de disparaître, lit-on dans des anges mineurs. L'usage de la langue traverse les différentes œuvres de Volodin et en constitue un trait commun. Toutes sont, d'une façon ou d'une autre, hantées par cette question inscrite en leur texte. Toutes se refusent à la disparition de la signification des mots. Toutes refusent la falsification du sens et les tentatives d'amnésie qui les accompagnent. Toutes, enfin, préviennent le lecteur contre cette pratique du faux et usage du faux dans l'univers des mots. Nous rappelons que nous sommes des êtres de langage. Volodin, on l'a vu, ne se contente pas d'en célébrer le bonheur. L'extrait de Lisbonne, dernière marge précédemment citée, le laisse clairement entendre. Derrière les mots, parfois, il y a un hurlement. La première page du port intérieur complète cet avertissement. Les mots, comme le reste, détruisent. Cette possible fonction du langage, l'auteur va également la mettre en fiction. Non pour compter quelques querelles domestiques plus ou moins assassines et criardes qui feraient entendre des noms d'oiseaux ou de mammifères, mais pour évoquer certains mésusages historiques mortifères de la langue, et ce, sur le mode de la dérive référentielle, pour reprendre une expression de Lionel Ruffel. Au sein de l'édifice post-exotique, c'est particulièrement Alto Solo qui permet d'illustrer la façon volodinienne de dire la collusion entre pouvoir politique et langue, ou plus exactement, l'annexion de celle-ci par celui-là. Dans le roman, un certain Balint Zagebel règne en despote sur la ville de Champrouche. Son utilisation de la parole, et par là même de la langue, est tout à fait conforme à celle des dictateurs. Il harangue la foule en vociférant des slogans. Il désigne une cible et systématiquement la dénigre. Dans Alto Solo, il s'agit des oiseaux. L'hostilité des partisans de Zagebel se lie avant tout dans le mot « piaf », affiché par un cafetier qui refuse de les servir. Le dirigeant lui-même, se transformant en monsieur loyal, commente le concert qu'il interrompt et interpelle les musiciens. Je cite « Turlutez-nous une passacaille, montrez à vos admirateurs que vous n'êtes pas des poules mouillées. » Ou « Le peuple aime la culture, pas la viculture. » Pour intellectuel prétentieux et fainéant huppé. Le présent de vérité générale interdit toute contradiction et Zagebel s'impose ainsi en détenteur de la vérité unique et la seule désormais officiellement reconnue. La langue est falsifiée. En l'occurrence, tout le champ lexical ornithologique est dégradé et sa nouvelle connotation donne au terme qui le constitue une valeur d'injure. Ainsi, tout un pan de la population, devenu bouc émissaire d'une logorée haineuse, est mis au banc de la société et exterminé, non seulement et d'abord verbalement, mais aussi et ensuite physiquement. Le dénigrement mène à la discrimination qui elle-même conduit à la décimation. Cette propagande martiale, ainsi que la désigne explicitement le narrateur, ne fait rien entendre d'autre que, je cite, l'intelligence, la sensibilité et la langue mensongère d'un système où rien n'est innocent et impollué. Et par les mécanismes de son fonctionnement, elle peut rappeler n'importe quel régime dictatorial ou totalitaire et ainsi mettre en branle la mémoire historique du lecteur. Cette analyse, certes possible, n'est absolument pas unique, car ce serait réduire la visée de l'œuvre. En effet, même si les oiseaux sont la cible préférée des partisans de Zagebel, les Noirs ne sont pas épargnés, qui ne sont qualifiés même pas de « nègres », mais, je cite, de « nègres ». Cependant, la dénonciation présente dans cette fiction dépasse largement ce cas particulier de racisme, qu'on se souvienne par exemple des noms de personnages à résonance plutôt arménienne. Volodine lui-même a confié « J'écris des livres qui ont pour prétention d'être internationalistes, disons, et qui sont anti-xénophobes, anti-racistes, en particulier Alto Solo. » Reste cependant à s'interroger sur les pratiques langagières mises en œuvre par l'auteur pour parvenir à dénoncer les mésusages possibles d'une langue sans justement tomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire sans lester sa plume de certains réflexes linguistiques ancestraux et rebattus. Une lecture attentive du roman permet de différencier les propos et les fonctionnements de Zagebel des mots choisis par Volodine et de l'usage qu'il en fait. Rien de commun, en effet, entre le champ lexical de l'un, ponctué d'approximations douteuses, et l'inventivité de l'autre qui joue avec la langue. Zagebel est prêt à faire feu de tout bois et fi de ses erreurs étymologiques s'il peut emporter l'adhésion de son public. C'est pourquoi il n'hésite pas à enjoindre le quatuor Gilas de « turluter une passacaille ». Or, quoi qu'en dise Zagebel, la passacaille, malgré sa syllabe finale, n'a strictement aucun rapport avec le monde ornithologique. De façon analogue, les, je cite, « discussions oiseuses » n'ont étymologiquement rien d'aviaire. Là où l'un, Zagebel, se glorifie d'une vague parenté sonore et pratique la confiscation du sens caractéristique des régimes totalitaires, l'autre, Volodine, s'amuse à contrarier sciemment l'étymologie. Mais le déplacement qu'il inscrit dans la langue est salutaire, car outre l'humour qu'il contient, il permet d'éviter les pièges d'une pensée toute faite et exige au contraire que celle-ci se remette en mouvement. Et si l'on s'arrête une dernière fois sur les oiseaux, des phrases comme « Mais les rapaces de ce genre ne sont pas des oiseaux » ou encore « Mais les alouettes ne sont pas des oiseaux » sont plus que d'autres, me semble-t-il, des adresses directes au lecteur. Le paradoxe qu'elles contiennent doit l'amener à s'y attarder. S'il prend comme référence la fiction, il peut accepter la véracité de ses affirmations, car effectivement, les rapaces et les alouettes qui désignent Zagebel et les frondistes ne sont pas des oiseaux au sens volodinien du terme. Mais c'est alors jouer la fiction au mépris de la réalité et de la vérité. Au contraire, se souvenant que les rapaces et les alouettes sont effectivement des oiseaux, le lecteur peut aussi refuser ces négations effrontées. Cela suppose qu'il se distancie de la fiction, qu'il se déprenne de son emprise sur lui. Volodine n'impose aucune des deux solutions. C'est au lecteur de choisir. Et ce faisant, il insère dans son œuvre de fiction la question de la prégnance et de la validité de la fiction. Au-delà de cette partition ornithologique qui prête à sourire tant le paradoxe est provocateur, au-delà de cette fable, une fiction historique a visé, par exemple, à destituer les Juifs, notamment, de leur humanité et à en faire des Untermenschen. Cette fiction passa, elle, effectivement du côté de la réalité et fut imposée comme vérité avec les conséquences que l'on connaît. Finalement, on pourrait faire à Alto Solo un pharmacon littéraire, car ce roman peut être pour le lecteur soit un baume, soit un poison. Tout est affaire de dosage, et il réside ici dans l'intelligence du texte qu'il aura. Si le régime totalitaire est un exemple historique de distorsion linguistique particulièrement visible, la colonisation a elle aussi imposé ses normes langagières. Son fonctionnement cependant est autre, et c'est par le biais du nom des singes que Volodine nous le rappelle. Comme pour Alto Solo, je plongerai dans l'œuvre, et en l'occurrence sa touffeur amazonienne, pour n'en révéler que quelques fonctionnements de langue particulièrement importants. À Puesto Libertad, ville centrale du roman, plusieurs personnages déambulent, se croisent et se parlent, parmi lesquels Golpiez. Il est le plus sollicité car, on le sait, pour ne plus subir les interrogatoires politiques et policiers, il choisit de suivre une thérapie avec Gonçalves, un psychiatre chaman. Même s'ils appartiennent au passé du personnage, ces interrogatoires sont néanmoins évoqués. Et si la contrainte porte sur le contenu des propos, elle concerne également la langue à utiliser. En effet, les Oguani, interrogateurs musclés, ne font grâce de rien à Golpiez qui narre ce souvenir. Je cite « Quand on m'interrogeait sur mon identité, on testait aussi mes connaissances de vocabulaire. Mais alors même qu'il ne commet aucune erreur lexicale, on lui reproche sa prononciation. Les nasales des Jucapira ressemblent à des diphtongues impérialistes. Les Jucapira allongent les syllabes muettes comme des impérialistes. » Dans cet exemple, l'impérialisme est clairement dénoncé, non pas tel ou tel que l'on pourrait situer dans l'espace ou dans le temps, mais l'impérialisme comme mode de rapport à l'autre, comme assujettissement de l'autre jusque dans sa langue, autant dire ce qui, à l'origine, le constitue en propre. Louis-Jean Calvé, dans une étude intitulée « Linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie », explique, je cite, la situation situe singulièrement inconfortable pour le locuteur autochtone qui se trouve aussi étranger chez lui, péjoré dans son usage linguistique et incapable de comprendre la langue de l'administration, de la justice, etc. Les colonies sont l'exemple type de cette situation. En s'installant chez l'autre, on y instaure également la diglossie, la dualité langagière, voire le duel des langues. En effet, alors que le terme bilinguisme connote une situation heureuse, synonyme de richesse linguistique, quelque chose comme une quantité double dont on pourrait profiter, la diglossie évoque au contraire une situation douloureuse, une fracture, la division de l'un en deux, non par choix, mais à cause de la présence d'un oppresseur. La situation linguistique éprouvée est celle d'une langue étrangère avec laquelle on est obligé de composer. Ainsi, Golpiez devra se débrouiller comme il peut avec la langue générale. Il en apprend des listes entières, les récite, en oublie ou en confond parfois certains éléments. Mais parle-t-il vraiment cette langue ou fait-il simplement le perroquet? Et que dire, en outre, d'un contexte culturel qui s'importe et s'impose sur la dépréciation et la négation de l'autre? Que disent d'ailleurs ces mots nouveaux à ceux dont on en rebat les oreilles? Rien, probablement, ou peut-être rien d'autre que l'oppression comme sens premier. Car si l'on garde le paradigme du colonialisme, la glottophagie n'est autre que la dévoration par le colonisateur des langues du colonisé. Et Louis-Jean Calvé d'écrire « Peut-on sérieusement affirmer, par exemple, que le pouvoir est au bout du fusil et non pas au bout du dictionnaire? Et n'y a-t-il pas une simplification excessive à opposer ainsi ce qui ne peut pas être antithétique, mais doit être considéré comme complémentaire. » Une fois encore, Volodine ne se contente pas de donner à lire le phénomène linguistique dont il veut raviver la conscience chez le lecteur. En effet, s'il se limitait à cela, ses œuvres ne se différencieraient pas d'autres qui, dans l'histoire littéraire, les ont précédées. Le Neuf Langues de 1984, par exemple, avait déjà fictionnalisé la langue totalitaire. Les œuvres de Volodine se différencient de celles qui leur sont antérieures parce qu'il offre au lecteur la possibilité d'expérimenter lui-même les expériences linguistiques mises en jeu dans tel ou tel épisode. Pour ce qui est de la glottophagie, elle s'insinue dans le roman par le déploiement de la langue toupie qui prend essentiellement la forme de liste, mais que l'on retrouve présente également de façon plus sporadique au détour de telle ou telle phrase. Volodine se démarquant explicitement de la mimésis, la présence du toupie ne peut s'expliquer de façon réaliste. Et par conséquent, invoquer le fait qu'elle ait parlé dans sa version moderne par les Indiens du Brésil assurément nous rappelle quelques réalités, mais n'explique rien de la stratégie littéraire de l'auteur. Utiliser le toupie, c'est faire un usage d'une langue parlée au XVIe siècle dans la région amazonienne par un peuple en pleine expansion proche des Guaranis. C'est donc faire le choix de cette langue parce qu'elle est pour les lecteurs des 20e et 21e siècles vraiment étrangère et tout à fait hermétique. L'efficacité est immédiate pour l'auteur et redoutable pour le lecteur. Le but de l'auteur dans ce cas n'est pas de jouer avec la compétence linguistique de l'auteur ou le sens des mots, il est au contraire de mettre ce lecteur en situation d'incompétence linguistique et de lui faire éprouver la situation d'intrusion et d'invasion linguistique à laquelle est confronté le colonisé. Le lecteur devient un de ces sauvages, un de ces barbares, soudain confronté à une altérité envahissante, à un impérialisme qui passe aussi par la langue. La diglossie de certaines pages mime celle réelle à laquelle est confronté le colonisé. Il s'agit pour le colonisé, comme pour le lecteur, d'entendre ou de lire des mots qui ne lui disent rien, qui n'ont aucun sens, si ce n'est, je le disais, l'oppression comme sens premier. L'ingéniosité langagière de l'auteur consiste cette fois à utiliser la langue comme matière sonore et non plus comme suite de signifiants. Le toupi, tel qu'en fait usage Volodine, est donc une langue d'altérité utilisée comme telle parce que son sens nous échappe. Mais à l'inverse, elle révèle de façon criante, sans dissimulation aucune, son usage, à savoir le face-à-face avec l'incompréhensible. Reste que Le Nom des singes est un roman, et le lecteur, même s'il vit l'espace de quelques lignes cette situation, est dans une position nettement plus confortable que celui qui est colonisé. Il peut en effet choisir d'échapper à cette langue inconnue s'il passe pour outre ces mots pour lui vides de sens. Et même si, courageusement, il choisit de se confronter à cette langue, ne pas la comprendre n'est pas pour lui vital. Cela le met au contraire dans une situation linguistique rare mais exaltante. La liste en langue toupie le plonge dans une sorte de strate primitive de la langue, dans la zone du babil et de l'onomatopée, là où cet assemblage sonore qu'est le mot se fait entendre avant de signifier. Pour moi et pour le lecteur, je cite Volodine, c'est un moment aussi de curiosité, une pause de pure musique linguistique. Fin de citation. Dans une telle situation, lire un mot, c'est d'abord le voir comme une succession de lettres, puis l'entendre dans ses résonances. C'est donc rencontrer un aspect des mots, généralement revivifié dans la poésie, davantage que dans la prose. Le Nom des singes donne donc à lire et à expérimenter une pratique langagière extrêmement intéressante, car fondée sur un retournement qui place successivement le lecteur dans deux situations antagonistes. La première, indéniablement subie, le met à mal et le renvoie à certaines situations historiques réelles. La seconde, potentiellement offerte, lui donne la possibilité de se faire romancier ou poète en herbe. Pour conclure, si j'emprunte à slogan le partage entre programme minimum et programme maximum, mon intervention se situerait plutôt du côté minimum, et encore, peut-être est-ce beaucoup dire. En effet, comme l'indique son titre qui convoque vocable mystérieux, langue facétieuse et vice-versa, il s'agissait simplement de donner un aperçu de l'importance que prend la langue dans les œuvres d'Antoine Volodine et de la variété des pratiques langagières de l'auteur. Quoique parfois habilement dissimulé, son désir manifeste d'y sensibiliser le lecteur le conduit à faire de la langue un objet d'épisode fictionnel, donc à la donner à lire et ce de A à Z, c'est-à-dire de son apprentissage à ses usages, certaines fois transfigurés en mésusages. Mais Volodine ne se limite pas à ses représentations intradiégétiques. Il utilise également les différents rapports que nous entretenons à la langue pour y faire réfléchir le lecteur en le soumettant parfois à la même situation linguistique que tel ou tel personnage et en dernier ressort à une situation de langue analogue à certains épisodes de la réalité, notamment historique. Cependant, les récits volodiniens ne se contentent pas d'être mimétiques, même de façon biaisée. La fiction en effet donne à lire sa toute puissance, car ces situations linguistiques, même subies par le lecteur, dans un premier temps impuissant face à elles, donne lieu à un possible retournement qui lui font éprouver de façon jubilatoire toute la puissance créatrice des mots et de l'imaginaire. Un critique présent dans cette salle et qui peut-être se reconnaîtra À noter que dans les textes de Volodine, il y a, je cite, « un jeu avec la compétence du lecteur », compétence d'ailleurs en voie d'amélioration s'il s'applique. J'ajouterai volontiers « s'il s'applique et prend conscience, pour le propos qui me concerne plus directement, que la langue, souvent facétieuse chez Volodine, est un outil particulièrement affûté et que du moindre mot il faut se méfier ou par lui se laisser subjuguer, mais que ce soit alors en toute connaissance de cause. » Merci.
Question. Alors nous avons un peu plus de 10 minutes. Il y a de temps, il y a de la place. Oui, Claire, Claire Callan.
Merci beaucoup, c'était vraiment très riche, très agréable aussi, ta langue est très agréable. En t'écoutant, je pensais juste à une petite chose, mais finalement, on est toujours amené dans l'univers volodinien, peut-être, au défaut des langues. Donc, impossible de l'habiter, ce monde, ou alors habiter au défaut des langues, donc en creux, et on est toujours amené à ça. Et je trouvais que l'exemple que tu donnais du nom des singes était très, très parlant par rapport à ça, hein. Donc, toute la réflexion de sa langue comme langue étrangère, etc. C'est dans ce sens-là, bien sûr, que j'emploie le terme de défaut des langues. Je ne sais pas si ça te...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Claire. Le défaut des langues, mais alors considéré, me semble-t-il, plus comme, au fond, une chance. Une chance pour l'écrivain qui va, pleinement conscient de ce défaut, et dans une autre mesure que je n'ai pas pu démontrer aujourd'hui, le désigner à la dénonciation, se servir de ce défaut pour, au fond, revivifier, parfois même, j'irais même jusqu'à recréer la langue, ou du moins donner à lire une langue qui n'est sûrement pas la langue de communication, mais au contraire, une langue pleinement vivante, dans laquelle les mots ont un sens, même si parfois on peut, comme certains personnages, hésiter sur ce sens et nous-mêmes avoir à fréquenter de façon assez assidue des dictionnaires.
Frédéric ?
Oui, juste peut-être une réflexion qui permet d'articuler ton intervention avec celle qui avait été faite par Gaspard tout à l'heure sur le fait que si je me souviens bien du dispositif du nom des singes, je n'ai pas revu ça récemment, donc je vais peut-être faire une bêtise, mais il ne me semble pas. Le toupie est employé comme étant la langue donc de l'oppresseur hein, dans des Ogwani. Et effectivement, il y a un moyen d'oppression parce que le Fabian Golpiès doit apprendre et il oublie tout le temps et on lui reproche. Et d'un autre côté, au moment où quand il le maîtrise, c'est un outil de résistance pendant les interrogatoires pour parler d'autre chose, pour faire des listes et pour éviter d'être... éviter de parler de ce dont sur quoi on l'interroge, il me semble.
Alors là, Frédéric, je suis dans la même hésitation que toi, mais peut-être que Gaspard pourra nous venir en aide. Il n'y a pas que le toupie, il y a aussi la question d'une autre langue, d'une langue générale, et je ne sais plus, en toute honnêteté, si c'est le toupie qu'on demande d'apprendre à Golpiès. Ça n'est pas ce que j'ai dit. On lui demande d'apprendre des listes de mots, de langue générale, et en toute honnêteté... Je sais plus, dans un...
Ça va pas dans le sens de ce que tu disais sur la... Je dis en vrai. C'est ça.
Voilà.
Bon, je
J'ai ici, hein, je peux lire le passage, j'ai un passage ici de l'Éternel. Ils vous appelaient leur nom indien authentique, Aogwani. Les Jukapiras sont tous à apprendre. Au début, ils ignorent les langues de la forêt, et à la fin, ils les confondent. Le juge se dit, vous vous entendez babiller en Aogwani, ou en langue générale sous sa direction. Il vous obligeait à réciter le long du vocabulaire. Parfois, il y introduisait un mot, Sobayagura, Guara. Pour voir votre réaction, vous ne sursautiez pas, le juge ne se donnait pas la peine de rectifier, les listes se gravaient ainsi dans votre mémoire incorrecte. Voilà pourquoi encore aujourd'hui vous vous obstinez à croire que parmi les noms d'araignées, Karangwe Jaira appartient au lexique indien. Alors, ça ne nous avance pas plus parce que je n'ai aucune idée de la proximité des différents noms qui sont.
Est-ce que ce sont des vrais noms?
Le tupi, oui.
Oui, oui, Thierry.
Oui, j'aurais peut-être une hypothèse, c'est qu'en fait, on est quand même dans un contexte politique de guérilla, guérilla avortée en Amérique du Sud. Donc à partir de là, il y a une langue, enfin, hypothèse, hein, il y a une langue générale qu'on appelle tupi ou langue générale, et une langue qui est explosée en tribus guérilla qui ont chacun leur vocabulaire particulier et qui assignent aux autres la vraie langue qui serait la leur, et à partir de là, des dominants et des dominés, d'où l'explosion de la langue en multiples fractions à la manière de la politique. C'est un petit peu comme ça, moi, j'ai tendance à venir. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de clarté non plus dans le passage.
Voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Thierry, et ça, cela dit, cette diffraction que tu disais de la langue générale en, on va dire, peut-être de multiples dialectes que nous ne parvenons pas, nous, à différencier, ne change rien à ces mots face auxquels on se trouve totalement incompétent et face auxquels on est obligé quand même de... enfin, avec lesquels on est obligé de composer. La liste étant le passage, je dirais, le plus massif, mais si on se souvient bien, dans le nom des singes, de ci, de là, il y a des mots qui sont uniques, je dirais, dans une séquence narrative en français, dans une langue à ce moment-là qui nous échappe, et l'auteur joue avec ça, parce qu'à un moment, c'est le mot « jaguara » qui est mis dans une séquence narrative avec un petit commentaire, qui nous rappelle qu'il s'agit d'un félin. Et là, on est face à Jaguara. On est enfin rassuré parce que c'est un mot, avant même le commentaire du narrateur, qu'on arrive à traduire. On se dit, ouf, voilà, je ne suis pas totalement perdue dans cette jungle verbale. Et puis, le commentaire du narrateur, il s'agit d'un félin, commentaire à la fois ludique et moqueur, au fond, vient nous replonger dans notre incompétence, entre guillemets, linguistique.
Une petite précision lexicale, linguistique. La langue générale du bassin amazonien, c'est le tupi-guarani. Et il y a des langues de tribu qui s'opposent à ça. Et dans l'exemple que Gaspard a lu, Karangejel, c'est le nom donné par les Portugais, à partir de Karangej, le crabe, aux araignées géantes. À ce moment-là, ce terme portugais prend une connotation de l'origine colonialiste dans le bassin national. Pour le reste, on se retrouve dans les figures qu'évoquait Thierry, c'est-à-dire un affrontement entre langues dispersées, dont la plus importante est celle qui a été appelée langue générale, qui est le tupi. Voilà.
Oui, Claire.
Peut-être juste une dernière remarque, ce n'est pas forcément une question, mais en t'écoutant, donc donner des exemples, argumenter, etc., je me disais finalement, est-ce que tous ces mots qu'on ne comprend pas ne sont pas aussi là, présents dans l'œuvre, pour nous mettre toujours en état de veille et de vigilance Et auquel cas, si on peut penser ça, comme il y a beaucoup de stratégies différentes, je me demandais, est-ce que c'est celui, comment dire, qui le met le plus en distance, ou qui peut le plus réagir, voilà, je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a quelque chose du côté de la vigilance.
Que le...
Parce qu'on ne peut pas lire une page en bloc, comme ça, de manière rapide. On s'arrête.
Oui, je serais assez d'accord avec toi. Et peut-être même que cette fonction de vigilance serait plus forte pour les mots que l'on trouve un peu comme des îlots. Dans une séquence en français, puisque le bloc massif de la liste en toupie me semble offrir ce que j'ai développé, c'est-à-dire cette possibilité d'une poésie personnelle et imaginaire face à des mots qu'on ne comprend pas. Et la fonction de vigilance, je la mettrais davantage face à des mots isolés. Nous rappeler une sorte de pause, effectivement, dans la phrase ou dans le... dans la séquence narrative, oui, attention, effectivement, mais merci de cet ajout enrichissant, Claire.
Ça fait plaisir.
On pourrait...
Oui.
Si je peux me permettre de demander, on pourrait peut-être dire, en tout cas, comme point de départ, qu'il y aurait une fonction de vigilance pour certains lecteurs et de l'endormissement pour certains autres.
Oui.
C'est
Franck Wegener.
Juste, en fait, d'après ce qu'a dit Gaspard, il y a même une hypothèse absolument scandaleuse pour un écrivain, mais moi qui me fascine, c'est que pour ne pas s'endormir, justement, attitude sacrilège, le lecteur saute. Et j'ai pensé, face au passage incriminé, j'ai pensé en fait, bon, parce que ça revient, effectivement, il peut y avoir un phénomène de lassitude, ou bien de rejet dans ce corps étranger, en fait, pour le lecteur. Et j'ai pensé à quelque chose, en fait, au fur et à mesure de ton exposé qui m'a beaucoup intéressé. C'était des parallélismes potentiels, ça vaut aussi un peu pour ce qu'a dit Gaspard, avec tout ce qui a pu s'écrire sur le descriptif, hein, de façon peut-être un peu paradoxale, qui me semble aussi représenter cette sorte de piste, en fait. Qui va être plus ou moins aisément assimilé. Oui.
Merci.
C'est pas Barthes qui disait qu'il ne lisait pas toujours le même roman de Balzac parce qu'il ne sautait pas toujours le même passage.
Alors,
pour instant, sur cette piste de liste qu'on parle qui permet dans le descriptif, derrière cette idée de piste, il y a une idée qui est majeure et magnifique, qui est l'idée de cancer, l'idée d'une langue qui s'auto-dévore et qui se nourrit sur la base du corps, du récit sur lequel elle est qui s'agit de la plus.
Dans l'inflation descriptive ou dans l'inflation de la liste, tu as bien un procédé qui rappelle les métastases, effectivement. Ouais. Et bien, ouais.
On retrouve également le même phénomène avec les chlombes qui se multiplient.
Alors, c'est fini. Merci Dominique. Alors, dans un quart d'heure, si vous le voulez bien.